Lundi 11 juillet, il est 16h, il fait 17 degrés à Victoria. Merci d'écouter CILS FM 107,9. Bon lundi à tous les auditeurs francophones et francophiles. Vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien du lundi au jeudi. On va commencer tout de suite l'émission. Je vous signale qu'on a en interview aujourd'hui vers 16h40 l'invité François Brassard, un invité dont on a pu faire la connaissance lors d'émissions précédentes. Monsieur Brassard, de l'organisme Dogwood Initiative dans Esquimalt, ici à Victoria, vient nous parler d'un dossier qui est cher aux membres de Dogwood, le financement illimité des partis politiques en Colombie-Britannique. Mais auparavant, on écoute les bulletins d'infos de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouvera dans quelques minutes avec les nouvelles provinciales notamment. Bonne émission! La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a émis des remarques suite à sa rencontre avec ses homologues provinciaux et territoriaux. Il a dit que les obstacles au commerce intérieur sont un frein à l'investissement des entreprises étrangères et des entreprises canadiennes. Navdeep Bains a dit estimer que ces mêmes obstacles privent le pays de possibilités de créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et Canadiens, de faire mousser l'économie en général et d'attirer des entreprises au pays. Il a cependant souligné que les gouvernements ont décidé d'harmoniser la réglementation qui crée actuellement ces mêmes obstacles. L'exercice Precise Response est en marche. Les manœuvres ont lieu à la base des Forces armées canadiennes Suffield dans le sud-est de l'Alberta, et ce jusqu'au 29 juillet. L'exercice de l'OTAN fait partie de la formation continue en défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire. 11 pays prennent part à l'exercice, et parmi les menaces possibles que les participants auront à affronter, notons celle d'une situation de crise dans une zone de responsabilité de l'OTAN ou encore se déplacer vers le lieu d'une attaque terroriste présumée. Taïwan a levé son interdiction temporaire d'importer du bœuf canadien. L'interdit existait depuis la détection d'un cas de vache folle au Canada en février 2015. Lawrence McCauley, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, a dit qu'Ottawa se réjouit de cette nouvelle et qu'il s'agit d'une excellente occasion pour le Canada d'exporter son bœuf sur les marchés mondiaux. En 2015, eh bien, les exportations canadiennes vers Taïwan ont été évaluées à près d'un milliard de dollars, dont 256 millions de dollars en exportations de produits agricoles, de poissons et de fruits de mer. Importante annonce pour les producteurs et consommateurs de l'Ontario. Sachez que l'Agence canadienne d'inspection des aliments vient d'établir une zone de contrôle de l'influenza aviaire, soit la grippe aviaire. L'agence a expliqué que cela permettra de superviser le mouvement des animaux, des produits et de l'équipement en vue de limiter la propagation de la maladie. La frontière de la zone de contrôle de l'influenza aviaire couvre un rayon de 3 km des lieux où un cas d'infection à l'influenza aviaire a été confirmé, soit près de St. Catharines. Réunion des ministres du commerce du G20 à Shanghai en Chine. La ministre canadienne du commerce international a rencontré bon nombre de ses collègues européens. Chrystia Freeland a également rencontré des représentants du commerce de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et des Pays-Bas, de même que du Royaume-Uni. Il a été question de l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne. Elle a dit que les partenaires européens se sont empressés de manifester leur soutien à la signature rapide de l'accord. Le week-end a été pour le moins houleux dans plusieurs coins des États-Unis. Au moins 260 personnes ont été arrêtées à New York, Chicago, Saint-Paul au Minnesota et Baton Rouge en Louisiane, et ce après que deux hommes de race noire aient été abattus par des policiers la semaine dernière. Il est à noter que malgré les arrestations, bien les manifestations se sont déroulées somme toute dans l'ordre et sans débordement majeur. Rappelons que le président Barack Obama a déclaré que ces cas de tuerie en public ne sont plus des cas isolés. Début aujourd'hui du Salon international de l'aéronautique de Farnborough en Angleterre. Le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, doit inaugurer aujourd'hui le pavillon du Canada. Il aura l'occasion de rencontrer les principaux acteurs du secteur de l'aérospatial, Son ministère a indiqué aussi qu'il profitera de l'occasion pour souligner la capacité de l'industrie canadienne de l'aérospatiale et promouvoir le Canada en tant que lieu propice aux investissements étrangers dans ce secteur. Au sport, au soccer, eh bien, finale de l'Euro 2016 et victoire du Portugal 1-0 contre la France. Le match s'est décidé en temps supplémentaire. Baseball majeur maintenant, victoire de Toronto 6-1 contre Détroit. Huitième victoire des Jays à leurs 10 derniers matchs. Le prochain match des Blue Jays aura lieu vendredi. Rappelons que le match des Étoiles sera disputé demain soir. Au tennis, à Wimbledon, Andy Murray a vaincu Milos Raonic en finale. Le Britannique a mis la main sur un second titre sur le gazon londonien. Au Tour de France, la 9e étape a été remportée par le Hollandais Tom Dumoulin. Chris Froome est toujours détenteur du maillot jaune. Et course automobile, le Grand Prix de Formule 1 d'Angleterre est allé au Britannique Lewis Hamilton.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'antenne de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon au micro. Avec vous jusqu'à 17h, on va passer aux nouvelles provinciales à présent. Tout d'abord, le dossier de l'immobilier, un dossier récurrent dans l'actualité des derniers mois. La Colombie-Britannique appuie l'idée de taxer les maisons vacantes de Vancouver. Le ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Mike De Jong, a annoncé aujourd'hui que la province ira de l'avant en donnant les pouvoirs nécessaires à Vancouver pour qu'elle puisse taxer les maisons inhabitées. Mike De Jong a demandé à l'Assemblée législative de se réunir le 25 juillet pour effectuer les changements législatifs requis pour l'adoption d'une telle taxe. La métropole britanno-colombienne, aux prises avec une importante crise immobilière et du logement, avait déclaré plus tôt cet été qu'elle souhaitait adopter une surtaxe avec ou sans l'aide de la province. La pression sur le marché locatif est claire, a déclaré le ministre De Jong. Il existe des statistiques et des données solides, et pour ces raisons, nous pensons qu'il est raisonnable pour nous de travailler avec la ville pour faciliter sa demande, a-t-il déclaré. Nous voulons nous assurer qu'elle a toutes les informations disponibles, attendues et nécessaires pour l'application de la taxe. Toutefois, la mise en place et l'administration au quotidien reposeront sur Vancouver. Pour le moment, le changement ne touchera que Vancouver, mais pourrait éventuellement toucher d'autres villes si elles en font la demande, selon le ministre De Jong. Donc, il faudra surveiller la réaction de notre maire ici à Victoria, Madame Helps, suite à l'instauration de cette taxe sur les logements vacants. Le député de Vancouver, Point Grey, et porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, quant à lui, a estimé qu'il s'agit d'une annonce vide de contenu. C'est un problème régional, a lancé David Eby. La province est beaucoup mieux placée pour y répondre que la ville de Vancouver. Il a ajouté que de permettre de taxer les maisons vacantes de Vancouver ne réglera pas le problème dans les autres villes de la grande région de Vancouver qui sont également aux prises avec un marché immobilier en effervescence. On va maintenant parler de la société des traversiers BC Ferries. Elle a annoncé que des liaisons seront ajoutées avec les îles Golfe à partir de mai 2007, l'année prochaine. BC Ferries a levé le voile sur les horaires des traversées qui relient l'île de Vancouver, la région vancouveroise et les îles Galliano, Maine, Pender, Salt Spring et Saturna. Deux nouveaux traversiers au gaz naturel, le Salish Eagle et le Salish Raven, seront ajoutés à la flotte d'ici le début de l'année 2017. Oui, ces ajouts permettront d'augmenter la capacité de haute saison de 45%, a assuré BC Ferries. Fabriqués en Pologne, les deux navires qui seront bientôt ajoutés seront précédés quelques mois auparavant par le Salish Orca, lui aussi assemblé en Pologne, qui desservira la liaison entre Comox et Powell River dès cette année. Les nouveaux horaires des traversées ont été mis au point après une consultation publique. Ces horaires répondent aux besoins exprimés par la clientèle avec peu de changements, mais avec des améliorations notables qui, nous l'espérons, seront appréciées, a déclaré BC Ferries. On parle encore de BC Ferries, cette fois à propos d'un traversier qui relie l'île de Texada à Powell River, ici sur l'île de Vancouver. C'est un traversier qui a connu beaucoup de ratés dernièrement et les habitants de l'île Texada sont très inquiets. Les pannes répétées du plus vieux bateau de la flotte de BC Ferries exaspèrent des résidents de l'île Texada qui en dépendent pour faire la traversée jusqu'à Powell River sur la Sunshine Coast. Le North Island Princess a été construit en 1958. Il a connu de nombreux problèmes mécaniques en 2016. La semaine dernière encore, par mesure de précaution, un remorqueur a été emmené en renfort pour accompagner le bateau. BC Ferries entend remplacer le traversier North Island Princess en 2019 et d'ici là, les ingénieurs font ce qu'ils peuvent pour le maintenir, selon la porte-parole de la Société des traversiers, Debra Marshall. Nous faisons une fierté de la fiabilité mécanique, mais malheureusement, nous avons eu quelques incidents avec ce bateau, a-t-elle expliqué à Radio-Canada il y a quelques jours. Dernière nouvelle dans cette portion d'émission, on parle d'un dossier de santé publique, grippe aviaire. C'est un dossier qui concerne la Colombie-Britannique puisque des cas avaient été constatés l'année dernière. On apprend aujourd'hui que 14 000 canards ont été euthanasiés car ils étaient contaminés. C'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA, qui a euthanasié ces 14 000 volatiles contaminés par la grippe aviaire près de St. Catharines en Ontario. Les autorités ont aussi mis en quarantaine tous les lieux situés dans un rayon de 3 km autour de la ferme de la région du Niagara. Les bâtiments, les véhicules, le matériel et les instruments de l'éleveur concerné sont encore en traitement et désinfection. La mise en place d'une zone de contrôle permet à l'agence de superviser le mouvement des animaux, des produits et de l'équipement dans la région pour limiter la propagation de la maladie. L'agence précise qu'aucune autre ferme de la région n'est contaminée par la maladie. La grippe aviaire ne pose aucun risque pour la salubrité des aliments lorsque la volaille est bien cuite. L'ACIA avait confirmé, je vous le disais, la présence d'un virus de type hautement pathogène en Ontario et en Colombie-Britannique l'an dernier. Le Canada n'avait lancé aucun avis de présence du virus depuis octobre dernier. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. Je vous le disais, on a du soleil actuellement sur Victoria. Le mercure a monté d'un petit cran. On est à 18 actuellement. On aura un ciel nuageux en soirée avec un risque d'averse de 40% ce soir. Autrement, pour demain, c'est un soleil qui partage le ciel avec les nuages qui nous attend. On aura un maximum de 20 degrés avec une probabilité d'averse, oui, de 40%. Pour mercredi, un soleil assez dominant et un maximum de 21 degrés, nous annonce Environnement Canada. On fait une petite pause musicale. On va écouter la formation La Femme avec une pièce qui s'intitule Où va le monde? À tout de suite. Je me demande si les filles et les garçons sont si cruels. Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça?
ça me fait si peur, est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je n'ai plus l'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin, je pleure et je renie. C'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi? La vie est si compliquée, surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Bientôt 16h18 dans le débrief, vous écoutez CILS FM. On va passer à la nouvelle du jour dans quelques instants. Cette nouvelle concerne les parcs nationaux du Canada. Il y a un organisme de veille chargé de suivre le mandat des parcs nationaux du Canada qui a déposé un rapport, et c'est un rapport qui est très critique sur la gestion des dernières années dans les parcs. On critique une dérive commerciale, en deux mots, dans les parcs nationaux du Canada. Alors, je vous lis quelques passages d'un article paru dans la presse, et on ira directement, si vous le voulez bien, au communiqué qu'a publié cet organisme. À l'heure où de nombreux vacanciers se rendent dans un parc national pour y faire du camping, du canot ou de la randonnée, un groupe écologiste accuse Parc Canada de manquer à sa mission première, celle de protéger ses sites. La Société pour la nature et les parcs du Canada, la SNAP, déplore que Parc Canada ait privilégié depuis une dizaine d'années les initiatives commerciales et touristiques plutôt que la protection de la nature. Alors, on va aller directement dans le communiqué qui a été émis par la Société pour la nature et les parcs du Canada, la SNAP. Depuis les dernières années, la SNAP observe un changement considérable dans la façon dont Parc Canada gère nos parcs nationaux. En fait, l'agence s'éloigne de son mandat prioritaire, soit la conservation de la nature, pour mettre davantage l'accent sur les initiatives touristiques et commerciales, l'augmentation de la fréquentation et la génération de revenus. Cette réorientation des priorités n'a pas été sans conséquences néfastes, comme en témoignent les approbations à huis clos de certains projets de développement, et ce, sans égard pour l'opinion publique ou leurs impacts sur l'intégrité écologique des parcs. Sans parler des décisions financières qui ont mis à mal les capacités de l'agence sur les plans scientifiques et de la conservation. Alors là, on a l'héritage des années Harper, c'est assez évident. Le dossier donc a été étudié par la SNAP et le rapport fait un petit peu le procès des années Harper. Reste à savoir si le nouveau gouvernement en place va vouloir donner un coup de barre et reprendre le droit chemin, entre guillemets. La déclaration de la directrice nationale du programme des parcs de la SNAP, Allison Woodley: les parcs nationaux sont censés être la norme d'excellence en matière de conservation au Canada. Si Parc Canada s'éloigne de son mandat de conservation, où notre faune et nos milieux naturels seront-ils en sécurité, se demande-t-elle. La SNAP accueille favorablement les engagements pris par le nouveau gouvernement fédéral pour ce qui est de limiter le développement dans nos parcs nationaux, de recentrer l'orientation sur la protection de leur intégrité écologique, de réinvestir dans la gestion fondée sur la science et de rétablir un processus décisionnel ouvert et transparent. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a pris deux décisions importantes qui vont dans le sens de ces engagements. Annulation du projet de construction de la statue géante Mère Canada, Mother Canada, dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, vous vous souviendrez. C'est un dossier qui avait été fortement controversé. La décision de construire cette statue géante n'avait pas vraiment de justification. L'autre chose qu'applaudit la SNAP, c'est le renforcement de la législation associée sur le parc national urbain de Larouge afin que la protection de l'intégrité écologique en soit la priorité absolue. Toutefois, comme le fait remarquer le présent rapport, l'approche de gestion des parcs mise en œuvre par Parc Canada comporte divers problèmes systémiques lesquels le gouvernement doit régler pour pouvoir être en mesure de respecter entièrement ses engagements. Il pourrait, par exemple, limiter le développement. Parmi les projets de développement approuvés récemment, notons l'important agrandissement de la station de ski de Lac-Louise à Banff, à l'intérieur d'aires sauvages protégées juridiquement. Le projet de construction d'hébergements commerciaux au lac Maligne est également mentionné, ainsi que, ce sont les deux principaux en Alberta. Le développement d'hébergements commerciaux au lac Maligne se situe dans le parc national de Jasper et selon la SNAP, il n'est pas en conformité avec le plan de gestion du parc. On mentionne également l'aménagement d'une piste cyclable pavé au cœur de l'habitat essentiel du caribou et du grizzly. Alors, ce sont des choses à revoir, exhorte la SNAP dans son rapport. Autrement, les auteurs du rapport demandent à ce qu'on recentre les efforts sur l'intégrité écologique et qu'on rétablisse le financement de la science. On doit aussi favoriser un processus décisionnel ouvert et transparent. Les consultations publiques sur les projets de développement à l'intérieur des parcs nationaux sont devenus des processus plutôt courts et limités sur le plan géographique, et cela fait carrément fi des opinions du public, indique le rapport. En tout, il y a 17 recommandations à l'intention du ministère de l'Environnement et du Changement climatique dans ce rapport. Et je vous lis la déclaration de Allison Woodley qui poursuit: « Nous espérons que le nouveau gouvernement arrêtera sans tarder les projets de développement à Banff et à Jasper et permettra à Parc Canada de récupérer sa culture d'organisation de conservation de la nature fondée sur la science qui agit dans dans l'intérêt du public à long terme. Pour assurer l'avenir de la faune et des milieux naturels de nos parcs nationaux, il est essentiel de placer la nature au premier plan des priorités des pratiques de gestion. Alors voilà, vous trouverez le rapport complet sur le site de la Société pour la nature et les parcs du Canada, la SNAP. C'est paru aujourd'hui. On va surveiller les réactions à ce rapport important, rapport qui est dévoilé justement dans la grande saison des parcs nationaux. C'est la haute saison actuellement. Les parcs sont envahis par les touristes, les vacanciers, les campeurs. Et on peut se demander justement avec la sortie de ce rapport ce que serait devenu nos parcs nationaux si le gouvernement Harper avait été réélu en octobre 2015. Sans doute que les parcs auraient continué de glisser sur cette pente glissante du développement immobilier, du développement commercial et de toutes sortes de dérives qui finalement sont nocives au milieu naturel pour lesquels ces parcs ont été créés à l'origine. On retourne en musique. On va écouter encore une fois la formation française La Femme avec une pièce qui s'intitule Amour dans le motu. Le groupe La Femme avec la pièce Amour dans le motu. 16h29, vous écoutez Le Débrief, Alexis Gagnon au micro, je suis avec vous jusqu'à 17h. C'est le moment de jeter un petit coup d'œil à l'agenda culturel. On va regarder ce qui se passe ce soir et dans les prochains jours, qu'est-ce qui s'offre à nous en matière de sortie culturelle. Je vous propose bien sûr, comme à mon habitude chaque lundi, le Movie Monday. Movie Monday, c'est un ciné-club très dynamique, très ponctuel chaque lundi, qui nous propose un film, souvent du documentaire, mais aussi du film d'auteur, du film de fiction d'auteur. Et ce soir, c'est un documentaire qui s'intitule Car Free et qui rassemble des gens qui ont réussi à vivre sans voiture. Donc, c'est un film témoignage. Sur le plan cinématographique, le langage est assez simple. Ça n'est pas un film cinématographique à proprement parler. D'ailleurs, c'est un film de 53 minutes qui a sans doute été fait pour la télé. Mais si le sujet vous intéresse, je crois que vous allez être comblé. La bande-annonce laisse entrevoir des témoignages qui sont vraiment très, très prenants, très enrichissants. Des individus de tous les horizons qui ont décidé de vivre sans voiture. Donc, ça s'intitule Car Free et c'est ce soir à Movie Monday à 6h30. Donc, ce ciné-club est situé à l'angle de Lee et de Fort, près de l'hôpital Royal Jubilee. Vous pouvez consulter la carte pour des indications plus précises, donc à l'adresse moviemonday.ca. C'est ce soir à 6h30. Autrement, toujours dans la veine cinématographique, il y a le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria, Cine Santa, qui va présenter un long métrage ce soir à 19h et 21h20, intitulé Embrace of the Serpent. C'est un film de fiction noir et blanc, très récompensé sur le circuit des festivals. Il a été mis en nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur film de langue étrangère. Il a un score absolument inouï sur Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, évidemment, qui est le portail cinéma, l'un des plus consultés du web. Le score, en l'occurrence, est de 99%. Donc, c'est dire si les cinéphiles l'ont aimé. Alors, c'est un film de fiction qui relate à 40 ans d'écart les voyages de deux explorateurs en Amazonie, dans l'Amazonie colombienne et leur rencontre avec les autochtones. C'est un film sur les méfaits de la colonisation. C'est un film sur la rencontre entre deux univers. Je vous invite à aller consulter la bande-annonce qui est sur le site de Cine Santa, sur la page du film. C'est dans un noir et blanc justement très très esthétique. La direction photo semble avoir été très soignée et le film déploie des paysages vraiment époustouflants et dramatiquement ça a l'air d'être assez bien campé aussi. Donc ce soir, Embrace of the Serpent à 19h et 21h20 à Cine Santa. Et je mentionne à titre informatif que le coût d'entrée du Cine Santa est vraiment abordable. C'est, je crois, $6.50 ou $7.50, je ne suis plus certain, mais c'est vraiment un tarif très abordable. Très abordable, un prix d'ami pour voir du cinéma de qualité sur le campus de l'Université de Victoria. Autrement, sur le radar, il y a toujours bien sûr les concerts du midi au Carré Centennial, au centre-ville de Victoria, angle Douglas et Pandora. Grosso modo, tous les midis durant l'été, il y a des concerts, à l'exception de peut-être quelques journées de week-end. Donc, si vous êtes en ville durant la semaine, vous êtes en pause de lunch, n'hésitez pas à déambuler du côté de Centennial Square, où a lieu tous les jours à midi un concert gratuit. Voilà pour les suggestions culturelles. On va retourner en musique. Je vous propose d'écouter une pièce de l'artiste Jacques, c'est son nom, auteur, compositeur, interprète, et sa pièce s'intitule « Dans la radio ». On écoute ça tout de suite.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Je parle avec des gens qui sont intelligents. Et moi j'ai pas d'avis, parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets. Et moi je n'existais plus, mais c'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio.
Auteur, compositeur, interprète Jacques avec sa pièce Dans la radio à l'antenne de CILS FM 107,9. Vous écoutez Le Débrief. C'est le moment de passer à la revue de presse. On va appuyer sur l'accélérateur. On a pris un petit peu de retard. Je vous parle tout d'abord de cette nouvelle de la nomination de Manuel Barroso chez Goldman Sachs. Goldman Sachs, l'énorme banque d'affaires américaine, a annoncé vendredi dit qu'elle avait engagé l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour la conseiller. Le Portugais d'origine occupera les fonctions de président non exécutif de Goldman Sachs International, branche internationale du groupe américain qui est basé à Londres. Il sera donc conseiller de Goldman Sachs. Il avait été premier ministre du Portugal de 2002 à 2004. Il a ensuite occupé la présidence de la Commission européenne de 2004 à 2014. Donc c'est un cas de porte tournante. Les hauts dirigeants d'institutions publiques qui tout à coup laissent tout de côté pour aller travailler pour une banque d'affaires ou pour des financiers, des monopoles. Ça a suscité une levée de boucliers en France et en Europe, un peu partout dans le monde. Le phénomène est assez courant en Occident. On l'a observé ici chez nous. Des gens qui, après leur passage en politique, sont recrutés par des sociétés privées et se trouvent, du moins moralement, en situation de conflit d'intérêts. Donc, les journaux ont été impitoyables pour ce monsieur Barroso. Libération a signé un texte très vif. Condamnant justement le choix de Barroso de se joindre, après avoir servi l'Europe, à une banque d'affaires comme Goldman Sachs. Alors c'est une banque évidemment à qui l'on reproche. Goldman Sachs, c'est une banque qui a un dossier assez lourd. Hein. On lui reproche un rôle très important dans la crise des subprimes qui a mené à la grande crise financière de 2007-2008. C'est aussi une banque qui avait spéculé sur la dette grecque dans les années 2009-2010, créant ainsi beaucoup d'instabilité. C'est une banque prédatrice, selon plusieurs observateurs. Le Monde, le journal Le Monde a également condamné le choix de Barroso et a indiqué que c'était la dernière chose dont l'Europe avait besoin au lendemain du Brexit. C'est mauvais pour l'image de l'Europe en substance, donc ce qu'indique cet éditorial paru dans Le Monde. Goldman Sachs est l'une de ces banques d'affaires américaine, pilier de Wall Street, qui incarne la crise financière de 2008, des milliers d'emplois perdus et l'explosion des dettes publiques aux États-Unis et en Europe. Elle s'est notamment distinguée, entre guillemets, en aidant la Grèce à présenter des comptes truqués pour rester dans l'euro. Voilà, donc ça c'est les réactions concernant le choix de Goldman Sachs de recruter Manuel Barroso, José Manuel Barroso, dans ses rangs. Autrement, je tiens à vous signaler plutôt cet article paru sur Bastamag. C'est une entrevue accordée par le politologue brésilien Jean Tible, qui a donné à Bastamag, si vous voulez, les clés de la crise qui sévit actuellement au Brésil, une crise politique très très importante. Vous le savez, la présidente brésilienne Dilma Rousseff est en état de elle a été écartée du pouvoir suite à un coup plus ou moins légal qui a été perpétré par des membres de son propre gouvernement. Elle est accusée de corruption. Et elle fait face à une procédure de destitution. Et le politologue brésilien Jean Tible, donc, qui est interrogé dans cet article de Bastamag, donne un petit peu le topo, rappelle que Dilma Rousseff n'a pas trempé dans des affaires de corruption. Elle, au contraire de ceux qui ont pris le pouvoir contre elle, qui lui ont ravi le pouvoir. Donc c'est une explication très détaillée et très éclairante de la situation au Brésil. C'est sur bastamag.net et ça s'intitule « Le système politique brésilien est en train de s'écrouler ». On espère retrouver bientôt Daniel Cariello dans cette émission. On l'avait interviewé fin mai, je crois. Il nous avait parlé depuis Rio de Janeiro, où il habite, et nous avait expliqué un petit peu ce qui se passait là-bas au Brésil. Beaucoup de manifestations, beaucoup de volatilité, beaucoup d'instabilité. On sait évidemment que les Jeux olympiques vont débuter à Rio dans quelques semaines à peine. Et évidemment, la crise politique et constitutionnelle pèse beaucoup et rend la situation sans doute encore plus difficile. Autrement, je voulais aussi vous mentionner cet article paru dans Le Monde. C'est un appel à traduire George Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale. Ça n'est pas la première fois qu'on entend des appels justement à traduire ces deux ex-dirigeants, George Bush et Tony Blair, devant la Cour pénale internationale. C'est signé par Serge Sur et Julian Fernandez. Ils sont professeurs de droit public et ils présentent justement leur plaidoyer en faveur d'un passage de Bush et Blair devant la Cour pénale internationale. L'étau se resserre-t-il autour des deux anciens dirigeants américains et britanniques, demandent-ils dans leur texte. Le rapport Chilcot récemment sorti au Royaume-Uni, comme le rapport Feinstein, paru il y a un peu plus d'un an aux États-Unis, souligne de nouveau les crimes commis en Irak ou en Afghanistan au cours d'interventions militaires discutables dans leurs fondements ou dans leur déroulement. Alors, je vous invite à consulter cette tribune signée par Serge Sur et Julian Fernandez. C'est dans le journal Le Monde. On va passer dans quelques instants à l'interview du jour. J'ai le plaisir de m'entretenir avec François Brassard, qui est maintenant un invité régulier de l'émission Le Débrief. J'ai eu le plaisir donc de m'entretenir avec lui il y a quelques jours à propos de financement illimité des partis politiques en Colombie-Britannique. C'est un sujet qui est cher à l'organisme dont fait partie François Brassard, Dogwood Initiative. Monsieur Brassard est responsable de la section Esquimalt de Dogwood Initiative. Donc, on va parler de financement politique en Colombie-Britannique dans quelques instants avec Monsieur Brassard après cette courte intermède musicale. De retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de passer à l'interview du jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative ici à Victoria. Monsieur Brassard est responsable du secteur Esquimalt pour l'organisme Dogwood Initiative. Aujourd'hui, on parle d'un dossier qui est cher aux membres de Dogwood Initiative. C'est un dossier important qui occupe l'avant-plan de leurs préoccupations, de leur action sociale et politique. On parle du financement politique en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est une province qui a une situation un petit peu particulière en matière de financement des partis politiques. Il n'y a pas de limite et donc ça crée des situations un petit peu étranges et un certain déséquilibre. Bonjour, Monsieur Brassard.
Bonjour, ça va?
Ça va très bien, merci d'être à l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle position a pris Dogwood Initiative dans le dossier du financement politique?
D'abord, il faut dire que Dogwood a plusieurs buts ou campagnes. Et pour l'instant, nous touchons à la campagne de la réforme de la démocratie. Il y a différents aspects à cela, mais l'aspect que nous touchons à l'instant, c'est justement tous les dons qui sont donnés soit à des individus ou dans une élection quelconque, ou bien soit à un parti politique. Et ce qui nous concerne le plus, c'est exactement c'est le fait qu'il n'y a aucune législation qui peut limiter cela ici en Colombie-Britannique. Il y a d'autres provinces qui ont, presque tous les autres ont des limitations, et le gouvernement fédéral aussi a légiféré ici. Mais ici, c'est le Wild West. Il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en 2005, et Dogwood a pris l'initiative aussi là-dessus, c'est que nous avons requis aux partis politiques. Il devait discloser.
Oui, révéler.
Révéler. Il devait révéler exactement les fonds qu'ils ont reçus de chaque groupement. Et c'est comme ça que nous savons et que nous avons les chiffres exactement de combien de dons ont été donnés aux différents partis. Dans un sens,
c'était le strict minimum, un premier pas vers...
C'est un premier pas, c'est tout. Mais quand même, ça nous a donné des informations importantes. Par exemple, que depuis 2005, le parti politique, surtout le parti libéral, provincial, a reçu 70 millions de dollars canadiens en dons.
C'est énorme.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là?
Différentes choses, mais ils disent que, et le gouvernement présent a dit que non, c'est simplement pour nous aider pour différentes choses lors d'une élection.
Oui.
Mais l'affaire, c'est que si on le regarde de très près, tous ces dons, et on voit, il y a une influence. Malgré ce que Christy Clark nie cela, en fait, il y a une influence en faveur de position que le parti politique libéral veut avancer.
Une fois au pouvoir,
surtout pour la question du gaz naturel liquide, ça, de ce sujet-là, Christy Clark voudrait que ça avance, ça n'a pas avancé. Sa dernière élection, elle a dit que c'était ça, c'était de par cet avancement, si vous voulez, qu'ils allaient justement avancer ce que ça va aller trouver beaucoup d'emplois ici en Colombie-Britannique. Il n'y a rien qui s'est fait de ce côté-là. Rien, absolument rien.
Et donc, moi, si je suis millionnaire, je peux donner plusieurs centaines de milliers de dollars au parti politique ou à un candidat. Il n'y a pas de limite. C'est la même chose de la part des entreprises. Une entreprise peut verser un montant illimité à une formation politique ici en Colombie-Britannique. Et donc, on peut s'attendre à ce que certains politicien soit achetable dans cette configuration-là.
Exactement.
C'est très... Oui. Ça suscite de l'inquiétude. Et donc, Dogwood Initiative... Dans l'esprit de certaines personnes, c'est un organisme pro-environnement. Donc, c'est un organisme d'environnementaliste.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez eu l'impression que vous vous éloigniez un petit peu de votre mandat lorsque vous êtes allé?
Pas du tout.
Non.
Dès le début, nous avons aussi un autre but qui est franchement lié étroitement,
oui.
Et c'est la réforme de la démocratie.
Oui.
Ça va ensemble. Et en fait... Sans oublier ce que nous faisions surtout pour arrêter l'expansion des tankers et des pipelines.
Oui.
En vue de cela, nous n'avons plus à toucher à cela parce que nous gagnons, en fait. La semaine dernière, il y a déjà eu
des victoires.
Des victoires, surtout au sujet de Enbridge.
Oui.
Et alors là, c'est un succès. Pour l'instant, ce que nous cherchons à faire exactement, c'est d'exercer assez de puissance politique en de la base. Des gens ici, des gens ordinaires en Colombie-Britannique,
oui.
À savoir à faire deux choses, mais de légiférer, d'avoir de la législation provinciale qui d'abord bannirait totalement tout don provenant de l'étranger,
oui.
L'étranger international ou l'étranger hors province.
Oui.
Ça d'abord. Deuxièmement,
parce que au moment où on se parle, cette mesure restrictive n'existe pas.
Pas du tout.
Il n'y a pas de réglementation
non.
En la matière.
Et c'est de là que justement nous avons des chiffres qui montrent que depuis 2005,
oui.
Il y a 70 millions de dollars canadiens qui ont été versés en vue des partis politiques. Pas seulement les libéraux,
non, bien sûr.
Mais en grande partie, 90% de
oui.
Cela était de ce côté-là.
Et dans ce montant de 70 millions échelonné sur 10 ans, est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent étranger?
Oui.
Oui, OK.
Oui, aussi. Provenant soit des États-Unis,
oui.
Soit de la Chine.
Oui, n'est-ce pas?
Et pas seulement de la Chine, il y a d'autres pays aussi qui sont intéressés parce qu'ils ont des projets pétroliers
oui.
Ici en Colombie-Britannique. Mais la deuxième chose que nous essayons de faire, oui. C'est justement à l'intérieur de la Colombie-Britannique, non, nous ne voulons pas arrêter ou éliminer les dons qui puissent être faits. Mais on voudrait limiter cela. D'abord, de limiter de la part des compagnies, corporations ou même des syndicats, des grands syndicats.
Oui, oui.
Ça, on voudrait le limiter là. Et aussi, deuxièmement...
Limiter le montant autorisé.
Oui,
OK.
Et deuxièmement, limiter aussi le montant de la part d'individus, n'importe quel individu. En Colombie-Britannique. Comme ça, on veut niveler la situation politique ici en Colombie-Britannique, en vue justement, peut-être, avec cette législation, d'avoir un gouvernement qui serait beaucoup plus ouvert à
la voix des citoyens.
À la voix des citoyens qui est manifestement en faveur. De nos intérêts
oui.
De environnementaux, mais deuxièmement de cette question que nous touchons pour l'instant, c'est le financement. Nous savons qu'il y a pour l'instant 86% de gens ici en Colombie-Britannique du vote, etc., qui voudraient une législation quelconque. Ça, c'est considérable.
Oui. Est-ce que les partis politiques ont répondu à votre campagne? Est-ce qu'il y a eu des promesses de fait par certains partis?
Le Parti démocratique...
Le Parti néo-démocrate?
Et oui, démocratique a dit que oui, ils sont en faveur de cela, ainsi que les Greens, les Verts.
Les Verts, d'accord.
Oui.
Et les libéraux n'ont pas répondu
Ils touchent à cela. Ils ne sont pas opposés, mais ils ne sont pas franchement...
favorable.
Encouragé.
Non. Ben, justement, parce que à partir d'un certain seuil de dons, au-delà des dizaines de millions, le parti a plus qu'il lui faut pour gagner. À partir d'un certain seuil, c'est de l'extra. Oui. Et on a eu un petit scandale ici en Colombie-Britannique lorsque on a appris qu'il y a des commissions qui sont versées à Christy Clark,
oui.
Lors d'événements de financement politique. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un dîner, elle réussit à amasser $1 million pour le parti,
oui.
Elle obtient une commission personnelle.
Exactement.
Donc, c'est une façon de s'enrichir personnellement.
Oui.
C'est quand même très grave comme situation.
Oui. Et nous sommes opposés à cela. Et c'est ça que nous voudrions changer.
Donc là, on est environ à un an de la campagne électorale.
Oui.
Pensez-vous que ce dossier va être au cœur de la campagne?
Oui, oui. Mais il y a d'autres points aussi qui vont être suscités à ce moment-là. Et c'est bien sûr, Christy Clark va pousser la question des emplois. Elle va pousser encore une fois, pour le gaz naturel liquide, disant qu'elle est... Et aussi les autres projets comme Kinder Morgan, même si Enbridge est mort comme projet.
Le Northern Gateway.
Le Northern Gateway. On sait qu'ils vont essayer de pousser finalement pour l'expansion que désire Kinder Morgan.
Ah oui. Donc, même pendant la campagne, ils vont ouvertement déclarer leur appui à Kinder Morgan?
Ça se peut qu'ils voudraient faire cela parce qu'il y a aussi pression de la part, du gouvernement fédéral sur Justin Trudeau, justement, provenant de l'Alberta et du premier ministre de l'Alberta et aussi Brad Wall. De la Saskatchewan.
Oui, Brad Wall, qui est très pro-ressources, industrie, etc.
Oui.
Donc, Dogwood Initiative va être très occupé. Est-ce que votre organisme va mettre la priorité sur la réforme du financement?
Oui, absolument.
D'accord.
Oui. Il y a d'autres choses que nous poussons en même temps, en question de réforme démocratique, à savoir la réforme électorale avec la représentation proportionnelle. Il y a d'autres sujets qui touchent à cela. Mais en fait, nous décidons d'avoir une position parapluie, si vous voulez. Et ça, c'est justement la question du financement. Si on peut gagner là, on pourrait avoir un gouvernement qui serait plus ouvert aux autres réformes électorales que nous cherchons.
Alors, comment les auditeurs de CLS FM 107,9, en vous écoutant, comment peuvent-ils vous apporter leur aide? Est-ce qu'il y a des façons de contribuer à votre action?
Oui, ils peuvent aller justement au site web touchant à cela. Et je ne sais pas si tu veux signaler.
Oui, bien sûr. Alors, c'est facile. Le nom du site web qui a été mis sur pied par Dogwood Initiative s'intitule banbigmoney.ca. Donc, banbigmoney.ca. Alors, c'est un site web que vous trouverez facilement, banbigmoney.ca. Ou sinon, vous tapez Dogwood Initiative Esquimalt Victoria.
Non, ce serait bcorganize.ca.
bcorganize.ca pour avoir le contact finalement et puis peut-être se porter bénévole, se porter volontaire.
Exactement.
OK, génial.
Surtout d'avoir un apport qui peuvent signer soit les initiatives que nous faisons ou soit les pétitions aussi là-dessus.
Oui. Et il y a possibilité aussi d'être bénévole, j'imagine, de vous prêter main forte dans certains...
Moi, comme, en tant que ma position à Esquimalt, non. Quand moi, je fais du...
Du porte-à-porte?
De porte-à-porte.
Oui.
Je ne demande jamais rien au point de vue argent. Ce n'est pas à moi de faire cela et je ne le fais pas.
D'accord.
Les volontaires ne font. Si moi, je veux aussi faire un don à Dogwood, je puis, mais ça, c'est une affaire personnelle.
Bien sûr.
Et c'est tout. Mais publiquement, je ne le fais jamais et il n'y a personne comme volontaire qui veut le faire.
Donc, ça peut commencer par une signature de pétition.
Exactement.
Et ça peut aussi se traduire par un petit don et par du bénévolat, éventuellement, si les affinités sont vraiment très fortes avec l'organisme. François Brassard.